Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nalit Salami. L'échographie fait partie des examens prénataux de routine proposés aux femmes enceintes dans la plupart des pays dotés de services de santé assez développés. Elle est incluse dans les soins de santé prénataux pour améliorer la santé de la mère et du bébé. Quels avantages cet examen présente-t-il aussi bien pour la mère que pour l'enfant? Quand faut-il le faire? À quel danger s'expose une femme qui s'abstient de faire une échographie? Quel risque pour le bébé?
Celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers. Parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme l'allocation de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Et cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où le CPC peut causer beaucoup de dégâts si, par exemple, il se trouve dans les trompes.
Quelles sont les questions auxquelles répondra Mme Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Au cours de ce magazine Votre Santé, Votre Avenir, notre invité apportera aussi des réponses aux questions que vous aviez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Après cette interview, vous suivrez Carnet de Santé présenté par Lina Moudou dans la deuxième partie de l'émission. Comme annoncé, vous allez suivre maintenant l'entretien que nous a accordé Mme Sabrina Ngwe sur l'échographie.
C'est votre avenir, l'invité de la semaine.
Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'accepter d'être notre invité pour Votre Santé et Votre Avenir pour parler de l'échographie. Nous allons commencer cette émission par une question qui vient de Félicien Koudoufouela. Il veut savoir quels sont les avantages d'une échographie.
Alors, l'échographie est une méthode d'évaluation non évasive du fœtus et de la maman. Elle aide à avoir l'état de santé du fœtus et de la maman sans toutefois être invasive. Donc, elle présente très peu de risques.
Et Alviki et Jefté, non, c'est Alviki et Alphonse Mwaki veulent savoir à combien de mois on peut commencer une échographie ou faire la première échographie.
La première échographie peut se faire aussi tôt que 6 semaines de grossesse. C'est à ce moment-là qu'on peut voir le fœtus qui se forme dans l'utérus.
Bon, c'est une question qui est venue d'un auditeur qui veut savoir à combien de mois peut-on déclarer l'œuf clair. Certainement, on peut voir l'œuf clair.
Ok, donc généralement, c'est après 12 semaines de grossesse, dont 3 mois, qu'on peut être à peu près sûr que la grossesse va tenir son cours. Donc, disons, c'est après 12 semaines, 3 mois.
Toujours Jefté Kabeya, il veut savoir combien d'examens d'échographie sont recommandés à une femme enceinte, donc pendant le moment où elle est enceinte et l'accouchement.
Alors, cela dépend des cas, mais je vais donner de façon générale. La première échographie est faite entre 6 et 10 semaines, et cela, c'est pour établir la viabilité du fœtus et aussi pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans le pelvis. Et après, la deuxième est conseillée entre 12 et 14 semaines pour établir que les fonctions primaires sont en train de prendre cours comme cela se doit. Et l'examen le plus connu, le plus attendu des mamans, c'est entre 18 et 24 semaines. C'est là où l'anatomie détaillée du bébé est faite pour savoir s'il y a des déchets qui peuvent être déjà perçus à cet âge du fœtus.
Alors, on rencontre souvent certaines femmes qui minimisent l'échographie. À quel danger ce genre de femme s'expose-t-elle, celle qui s'abstient de faire une échographie, et quels sont les risques pour le bébé?
Alors, celles qui s'abstiennent de faire des échographies prennent des risques divers, parce que, par exemple, l'échographie qui se fait entre 6 et 10 semaines confirme l'allocation de la grossesse, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans l'utérus ou est-ce qu'elle est ailleurs. Cela se fait entre 6 et 10 semaines parce que à ce moment où l'œuf est petit, il peut causer beaucoup de dégâts si par exemple il se trouve dans les trompes. Entre 12 et 14 semaines, il est établi que les fonctions vitales du fœtus sont en cours. Donc, une personne qui décide de ce qu'il y a l'opportunité, mais qui décide de ne pas avoir une échographie, peut manquer l'information de savoir que tout ne se passe pas comme il se faut dans l'utérus. Et entre 18 et 24 semaines, il faut voir s'il y a des déchets, peut-être la maman peut prendre un traitement qui peut empêcher que certaines choses qui ne sont pas en train de bien se former s'arrangent. Donc, manquer de se faire suivre par échographie comporte des risques.
Merci. Il y a eu des cas où l'échographie a montré un sexe masculin, mais le bébé est né de sexe féminin. C'est ce qui a poussé Médard du Rocher-Beaupé à se demander pourquoi l'échographie ne donne pas une réponse exacte en ce qui concerne le sexe de l'enfant.
Bon, en général, il répond à la question du genre de bébé de façon certaine. Donc, l'incertitude ici provient de l'inaptitude du technicien à visualiser les parties génitales du fœtus si celui-ci se présente d'une façon peu favorable à l'examen. Donc, généralement, si le technicien n'arrive pas à déterminer le sexe du bébé, une autre visite est prise pour pouvoir donner un autre coup d'essai.
Et Abdoulaye Sankara, lui, veut savoir si l'échographie définit tout de suite l'auteur de la grossesse à l'issue d'un doute.
Malheureusement, à cette question-là, l'échographie ne peut pas définir la paternité du fœtus parce que ce n'est pas un examen sanguin.
Alors, la question de Nervi Nerva rejoint un peu celle que Médard du Rocher-Beauté a posée tout à l'heure concernant pourquoi des fois les résultats de l'échographie ne s'avèrent pas, sont différents de la réalité à la naissance de l'enfant.
Bien, nous le savons, toute science a des limites. Donc, du fait que l'interprétation de l'échographie provient de l'observation déduite de la réaction des cellules corporelles par rapport au sang. Cela veut dire plusieurs facteurs affectent le comportement du sang qui traverse le moment du bébé. Donc, de ce fait, certains diagnostics ne peuvent être confirmés qu'à la naissance du bébé après l'observation directe, lorsque c'est possible.
Tchatch Konaté s'attendait à des jumelles après 3 échos. Il dit que c'est au dernier que son rêve tombe à l'eau. L'échographie révèle un enfant, une fille. Seulement, le sexe était vrai, mais il voudrait savoir pourquoi ces erreurs, lui qui s'attendait à des jumelles, et voilà qu'il se retrouve avec une seule fille.
Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Si nous avions l'âge exact à laquelle les échographies ont été faites, la réponse aurait été plus axée sur son cas précis. Mais en général, les jumeaux peuvent être conçus au départ, mais l'un ne progresse pas. Cela s'appelle généralement le jumeau qui disparaît. Donc, quand cela arrive pendant les premières semaines, le premier trimestre, le jumeau qui n'a pas survécu est réabsorbé de sorte qu'il n'y a plus de traces. Donc, après confirmation d'une grossesse multiple en cours, il y a des chances que cette grossesse devienne une grossesse unique. Et si on n'est pas suivi par une échographie après la première ou la deuxième qui se fait généralement au premier trimestre.
Et Alphonse Mouaki demande si le bébé prématuré est découvert à l'échographie. Lui, c'est depuis la RDC qu'il nous écrit.
Le bébé prématuré est celui qui est né avant l'âge terme qui est 37 semaines de grossesse, soit 8 mois et demi. Donc, de façon technique, l'échographie ne détermine pas la prématurité du bébé, mais plutôt l'âge en semaine de naissance.
Damas Moussaou Ndombe a laissé 3 séries de questions sur notre page Facebook de VOA Afrique. Dans la première question, il dit « Madame, l'échographie en tant qu'examen est obligatoire chez nous ici, dans les grandes villes et aussi dans les grands centres, dotés des experts. Mais l'on constate que lors de la naissance, les nouveaux-nés sont parfois infirmes, soit il y a des problèmes graves qui mettent en danger la vie des enfants ou de leur mère. À quoi cela est-il dû ?»
Ça, c'est une très bonne question. L'échographie est un outil de diagnostic. Donc, un échographe est un technicien. Et la technologie et la technique déterminent le degré de compétence et le pourcentage de résultats positifs. Donc, cela veut dire entre les capacités de la personne qui fait l'examen et la performance de la machine, ces deux facteurs déterminent le résultat. Il y a aussi l'équipe médicale, parce que l'échographe, dans sa profession, n'est pas censé y travailler tout seul. Il doit avoir le soutien du radiologue ou de l'obstétricien spécialisé en grossesse difficile, qui, l'un des deux, doit être la deuxième paire. Donc, pour affirmer ou questionner ou mettre un peu plus d'informations sur ce que l'échographe a déterminé. Cela étant dit, il arrive que des décès soient manqués, surtout si la grossesse ne bénéficie que d'un seul examen. Ou encore, certains décès ne se signalent que plus tard, pendant le troisième trimestre. Il y a des décès, par exemple, cardio, qui ne peuvent vraiment se déterminer que lorsque le bébé a atteint 30 semaines, 32 semaines, mais généralement, la plupart des fœtus sont examinés entre 18 et 24 semaines.
La deuxième question de Moussa Ndombe, c'est celle, je pense que c'est la question que, l'une des questions que la plupart de nos auditeurs ont posées. Alors, voilà, il s'inquiète du fait que le mensonge de l'échographie laisse en désespoir les femmes. Dans le cas où, quand la femme se rend à son échographie, on lui dit que c'est un garçon, alors qu'à la naissance, elle met au monde peut-être des jumelles. Alors, il veut savoir si, à ce moment-là, il faut blâmer les échographes ou ce sont les appareils qu'on utilise qui sont douteux.
Bon, un peu des deux. Avec l'avancée de la technologie, ce genre de cas sont de moins en moins courants. Et il faut aussi mentionner que les échographes ont des limites et c'est à chacun d'être honnête et d'admettre lorsque, à la suite des forces soutenues, l'examen ne peut pas être conclu de façon satisfaisante. Donc, si un échographe a un code d'éthique de travail honnête, il pourra reconnaître « j'ai pas pu déterminer le sexe du bébé » au lieu de désigner ici est l'ennemi de l'échographe. On doit se baser sur les faits et sur ce qu'on voit. Donc, il est important que l'échographe soit honnête et aussi ça dépend des appareils que nous utilisons.
Selon Moussa Ndombe, nos grands-parents ne savaient pas tout ceci, ne connaissaient pas l'échographie et les risques de décès, certainement à la naissance, étaient moins importants, alors que maintenant il y a beaucoup de cas de décès pendant l'accouchement, tant pour le bébé que pour la maman. À quoi cela est-il dû?
Bon, je dirais ce résumé ne reflète pas vraiment l'histoire réelle. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts pour le montrer clairement. Mais l'amélioration des soins prénataux, donc l'échographie, en fait partie, contribue à ce qu'il y ait moins de mortalité périnatale, tant pour la maman que le bébé. Les histoires que maintenant nous entendons beaucoup parler de ces cas, et peut-être dans le passé, nous n'en entendions pas parler beaucoup, mais l'une des luttes qui est mise en avant dans le domaine de l'obstétrique, c'est de diminuer la mortalité autour de la grossesse, que ce soit pour la maman, pour le bébé, et aussi de lutter pour que les bébés soient, avant la naissance, soient pris en compte encore plus pour éviter justement ce genre de catastrophe qui arrivait très souvent dans le passé.
D'après Alphonse Mbouaki, aujourd'hui, on assiste fréquemment à des hémorragies pendant les accouchements, alors que dans les villages, dans le passé, les mamans accouchaient sans hémorragie, elles ne connaissaient pas ces problèmes d'hémorragie, ce qui diminuait les décès de la maman ou du bébé à la naissance? Comment expliquer cela?
Bon, encore, c'est à peu près la question précédente. La périmortalité a été la raison de chasse aux sorcières pour nos mamans. Et aujourd'hui encore, celles qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas accès à la médecine moderne, en paient le prix. En prenant l'exemple cité, l'hémorragie postpartum, c'est-à-dire l'hémorragie après l'accouchement, l'une des raisons peut être simplement que le placenta recouvre le col. Et le col, c'est la partie de l'utérus qui s'ouvre pour que le bébé puisse sortir de l'utérus. Alors, si le placenta recouvre le col, que ce soit un bout ou toute une partie du placenta, sachant que le placenta, ce sont des vaisseaux sanguins, cela cause une hémorragie. C'est un diagnostic qui est très simple et qui se fait très facilement. Lorsque la maman a reçu une échographie pendant le deuxième semestre, entre 18 et 24 semaines, et si, lorsque cela a été découvert en ce moment-là, la maman a un suivi qui permet qu'à 32 semaines, cela soit encore évalué pour voir si ça a été résolu ou pas. Si ce n'est pas résolu à l'approche de la 36e semaine, la maman aura encore une échographie. Et s'il est montré que le placenta n'a pas bougé, la maman devra être accouchée par voie césarienne, et cela avant qu'elle ne finisse la 37e semaine, pour diminuer justement le risque d'hémorragie pendant l'accouchement.
Alors, dans la dernière série de nos questions, nos auditeurs veulent savoir ce qu'on peut voir à l'échographie à 3 semaines de grossesse.
3 semaines de grossesse, généralement, il n'y a rien à l'échographie. Le plus tôt qu'on peut voir quelque chose, le sac embryonnaire dans l'utérus, c'est à partir de 5 semaines de grossesse. Et c'est là où on voit le sac embryonnaire et le sac de Vitellin.
Et à partir de quand peut-on voir l'embryon dans la cavité utérine?
Dans la cavité utérine, entre 6 et 7 semaines, c'est généralement au début de la 6e semaine, l'embryon est visible dans la cavité utérine.
Et à partir de quel stade peut-on entendre le cœur de l'embryon?
Le cœur de l'embryon s'entend entre 6 et 7 semaines. Cela commence doucement entre 70 et 80. Et par la fin de la 7e semaine, peut arriver jusqu'à 180.
Et à quel moment peut-on reconnaître le sexe de l'enfant à naître?
Généralement, cela dépend de la maman, du corps, la façon dont le sang traverse la maman. Cela peut être vu à 13 semaines, mais généralement, pour être sûr, c'est conseillé de déterminer le sexe de l'enfant entre 18 et 24 semaines pendant l'anatomie complète du bébé.
Merci beaucoup. Pour terminer notre émission, Madame Sabrina Ngwe, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui négligent l'échographie et même... Bon, d'abord, est-ce que l'échographie, c'est juste une affaire de la mère ou le père peut aussi faire quelque chose?
Bien sûr, l'échographie, c'est une expérience familiale. C'est vrai, c'est un examen médical. On ne doit pas prendre cela vraiment à la légère parce que certains pensent que c'est juste comme une balade. C'est un examen médical, mais c'est un examen médical qui peut se faire en famille. Ça aide aussi le papa à voir ce qui se passe, à être inclus dans la progression de la grossesse. Donc, les papas devraient se sentir à l'aise et la maman devrait se sentir à l'aise d'être assistée par le papa pendant qu'elle se fait faire une échographie.
Merci. Et donc, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui continuent de négliger les échographies ou bien qui ne s'intéressent même pas à faire l'échographie pendant qu'elles sont enceintes?
Je dirais que peut-être c'est par ignorance des bienfaits que l'échographie pourrait apporter. dans ma profession, cela fait un peu plus de 10 ans que je me suis concentrée à l'échographie prénatale et je vous assure, ce qu'on voit peut être époustouflant. Donc, cela apporte un élément de diagnostic, soit rassurant ou de prévoyance pour les parents. Donc, prenez cela au sérieux. C'est tout comme un check-up qu'on vous demanderait de faire sur vous-même. Donc, un homme averti en vaut mieux.
Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions d'avoir été l'invitée de cette émission. Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Le plaisir est le mien. Merci.
Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre l'entretien que nous a accordé madame Sabrina Ngwe sur l'échographie. À présent, c'est le moment de suivre Carnet de santé avec Nina Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce que la fistule obstétricale et comment l'éviter? Nous examinons de près. L'experte nigériane en santé reproductive, Dr Yelwa Ousmane, discute des causes de la fistule et comment aider les patients. Ensuite, une banque de lait maternel au Mozambique apporte un soulagement aux nouvelles mamans et à leurs bébés. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une pathologie qui provoque une perte incontrôlée d'urine chez la femme. La fistule obstétricale est une perforation entre l'appareil génital féminin et la vessie ou le rectum. La lésion survient à la suite d'un travail d'accouchement prolongé. L'écoulement permanent qui s'ensuit dégage une odeur de matière fécale ou d'urine. La fistule obstétricale est une complication courante qui affecte de nombreuses femmes dans les pays sous-développés. Selon la Fondation américaine contre les fistules, Fistula Foundation, au moins 1 million de femmes en Afrique et en Asie souffrent actuellement d'une fistule non traitée. Ces femmes vivent souvent dans la honte et l'isolement. Partons au Mozambique, où de plus en plus de femmes souffrent de fistules obstétricales. Les experts en santé craignent une augmentation du nombre de cas. Adina Swalehe de la VOA a réalisé ce reportage à Nampula, au Mozambique. Récit Mohamedou Umfa.
Dans la province de Nampula, au Mozambique, des femmes atteintes de la maladie ont récemment subi une chirurgie réparatrice à l'hôpital central de Nampula dans le cadre d'une campagne menée par l'organisation Focus Fistula en partenariat avec les autorités sanitaires locales.
Je ne peux pas contrôler mon urine, j'ai mal à la vessie. Je suis venue ici à l'hôpital et j'ai foi que je serai guérie. Je demande à Dieu de m'accompagner. J'habite à Beira et je suis juste venue ici parce que la campagne a commencé.
J'étais enceinte et quand le jour de l'accouchement, je suis venue à l'hôpital, j'ai subi une opération mais j'ai perdu le bébé. Maintenant, j'ai des douleurs à la vessie et je ne peux pas contrôler mon urine.
Igor Vass, l'urologue, chirurgien et fondateur de Focus Fistula, considère que l'augmentation des cas au Mozambique est peut-être liée à une plus grande prise de conscience de la maladie et par conséquent à un plus grand nombre de femmes cherchant un traitement.
Et que finalement, non sans
les dernières données qui sont toujours en cours de collecte et qui ne sont pas officielles montrent que nous avons bien plus que les 2000 cas de fistule par an. Nous craignons que le nombre puisse doubler. Cela signifie que soit les gens sont de plus en plus conscients de la maladie et ont recours aux soins, soit il y a une réduction de la qualité des services de santé.
Les données officielles indiquent que les provinces de Nampula et de Niassa sont celles qui comptent le plus grand nombre de cas de fistule. Outre les douleurs atroces et les blessures traumatiques, ces femmes perdent généralement leur bébé pendant l'accouchement. Très souvent, elles finissent par être victimes de discrimination de la part de leurs partenaires et au sein de leur communauté.
Le docteur Yelwa Ousmane est experte en santé reproductive à l'hôpital Maitama à Abuja au Nigeria. Elle nous en dit plus sur la fistule obstétricale.
There are different types of fistulas.
Il existe différents types de fistules selon la zone affectée. Vous pouvez avoir une fistule anale, cela signifie une ouverture ou une connexion de passage entre le rectum et la peau autour de l'ouverture de l'anus. Vous pouvez avoir ce que nous appelons la fistule vésico-utérine qui se situe entre la vessie et l'utérus. Il y a aussi la fistule vesico-vaginale qui se situe entre la vessie et le vagin. Et vous pouvez également avoir une fistule recto-vaginale qui se situe entre le rectum et le vagin. Vous pouvez aussi avoir une fistule ou une ouverture anormale dans les parties du corps, comme entre l'intestin et la peau. Nous avons en Afrique la fistule obstétricale qui survient en raison d'une blessure lors de l'accouchement. Elle peut être aussi causée par le viol. La fistule obstétricale survient pendant l'accouchement en raison d'un travail prolongé et dystocique qui n'est pas soulagé en temps opportun par la fourniture de soins d'urgence. Les personnes à risque sont les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des services de santé de qualité et cette question du mariage précoce est quelque chose de très sensible et important à discuter. L'alimentation est très importante pour le développement du corps. Donc si la fille n'est pas assez mature, son corps, son bassin n'est pas fort et il y a un plus grand risque. Pour le traitement, une chirurgie reconstructive est disponible. Vous avez le traitement non-invasif, vous avez le traitement chirurgical majeur et vous devez avoir des soins de suivi car celles qui ont une fistule sont souvent abandonnées par leur mari et se sentent stigmatisées dans leur communauté et leur famille et cela peut entraîner la dépression. Les malades ont du mal à trouver du travail, ce qui peut conduire à la pauvreté. Vous devez faire face à la fois à des problèmes physiques et psychiques et sociaux. Il y a donc un réel besoin d'une approche holistique. Cette approche s'applique également à la prévention. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire prendre conscience de la maladie et surtout comment l'éviter. Selon les rapports de l'OMS, 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont signalés chaque année. Et la partie la plus douloureuse pour moi est que le Nigeria compte environ 40% des cas de fistule obstétricale. Mais des études montrent qu'à l'heure actuelle, certains doivent vivre avec cela pour toujours. Ils peuvent même mourir avant d'avoir reçu des soins en raison de problèmes d'accès aux soins.
Le lait maternel est une source de nutrition pour les bébés, mais toutes les mères ne peuvent pas en produire. Afin d'assurer que les nouveau-nés, en particulier les prématurés, dont les mères ont des difficultés à allaiter, y aient accès, l'hôpital central de Maputo au Mozambique a créé une banque de lait maternel, actuellement le seul dans le pays. Nani Talani.
C'est un endroit où l'altruisme est une réalité. Plusieurs mères allaitantes y viennent donner leur lait. Ici, à l'hôpital central de Maputo, la seule banque de lait maternel du Mozambique a été créée pour répondre à la demande croissante de lait maternel pour les prématurés. Ce lait est offert aux bébés dont les mères n'en produisent pas assez ou celles qui ne sont pas en mesure d'allaiter. Yolanda Longa donne gratuitement du lait depuis plus d'un mois. Malgré sa routine de travail chargée, elle essaie toujours de trouver le temps pour apporter son aide.
Je sais à quel point le lait est important pour un nouveau-né. C'est quelque chose que nous seuls, les mères, pouvons donner. Et je me suis sentie obligée de venir donner du lait aux bébés qui en ont besoin, peut-être parce que leur mère est décédée ou que leur production de lait est insuffisante.
Elle dit ressentir un sentiment de fierté et de soulagement de contribuer à élever d'autres enfants que les siens. Elle invite d'autres mères allaitantes à se joindre à la cause.
J'espère qu'elles viendront ici et donneront leur lait parce que c'est quelque chose que nous produisons constamment et il y a beaucoup de mères qui finissent par perdre leur lait.
Les spécialistes ici disent que les mères donneuses doivent remplir certaines exigences.
Premièrement, la donneuse doit allaiter, elle doit avoir un bébé et allaiter, elle doit avoir été testée et les résultats du test doivent être négatifs pour le VIH, l'hépatite B et la syphilis. Ce sont les trois tests obligatoires et ils doivent être effectués avant de commencer le don de lait.
Madalena Balaté, nutritionniste à la Banque de lait de l'hôpital central de Maputo, explique le processus.
Lorsque le lait arrive des donneuses, nous l'amenons dans cette salle où se fait la pasteurisation. La pasteurisation est le processus d'élimination des bactéries et des virus en chauffant à environ 62,5 degrés Celsius pendant 45 minutes, puis nous le testons pour nous assurer qu'il est propre à la consommation.
Les employés rapportent que pendant la pandémie de coronavirus, les dons ont chuté parce que certaines mères avaient peur d'aller à l'hôpital. Ils ont alors lancé un service mobile de collecte de lait.
Voici la fin de ce magazine hebdomadaire, Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était structurée autour de l'échographie. Nous avons eu un entretien avec Mme Sabrina Nguyen, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par les Normandos. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Manit de Salami. Continuez d'écouter Vidéo Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.